Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute du Max Sport du samedi sur RFI parce que oui, il y a du sport ce week-end, même si la 18e journée du championnat de France de football est une nouvelle fois tronquée avec un seul match aujourd'hui, un match remporté par Reims 2-1 face à Strasbourg. Trois matchs demain, tout ça suite au mouvement des Gilets jaunes et à la mise en place du plan Vigipirate après l'attentat sur le marché de Noël à Strasbourg cette semaine. Mais du football, il y en a en Afrique avec les 16e de finale aller des Coupes d'Afrique des clubs, Ligue des champions et Coupe de la Confédération. On en parle dans un instant avec Antoine Grenier. Nous entendrons également le nouveau sélectionneur de la Tunisie. C'est Gigi, Alain Giresse, un habitué des sélections africaines. Juste après, direction Niamey où Mustapha Oumarou vient de remporter la deuxième édition du Tour cycliste du Niger. Et puis nous joindrons le neurochirurgien Jean Chazal pour évoquer avec lui la triste actualité du rugby français après la mort cette semaine de Nicolas Chauvin à la suite d'un plaquage lors d'un match. Il avait 18 ans et il est le troisième jeune joueur à mourir ainsi cette année. En toute fin d'émission, on reviendra quand même au football avec un petit tour des championnats anglais, allemand et espagnol. Mondial Sport, une émission réalisée par Hélène Avril. C'est parti. L'Afrique et ses coupes continentales de clubs. On parle football, évidemment, et c'est avec vous, Antoine Grenier. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
C'est un peu votre émission ce soir, Antoine, avec, pour commencer, les 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Et tout d'abord, la SAC Abidjan qui a surpris le Stade malien.
Et décidément, les clubs du Mali sont fâchés avec cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Aucun d'entre eux n'y a jamais pris part. Et le Stade malien a raté une occasion précieuse de s'en rapprocher. Pire, il a laissé des plumes à domicile en s'inclinant cet après-midi 1-0 face au Mimo, un but encaissé dans le temps additionnel et qui complique forcément la tâche des Maliens en vue du match retour, même si Noum Diané, l'entraîneur des Bamakois, veut absolument rester positif.
Voilà, je pense que techniquement les équipes ont produit réellement du football, mais je pense qu'on a eu, et sur ce match-là, surtout en seconde mi-temps, je pense que même en première mi-temps, on a eu quelques occasions. Je pense qu'on a eu plus d'occasions que la SEC. Sur ce match-là, ils ont été plus efficaces.
C'est qu'ils préparent le match retour.
Oui, bien sûr, il faut croire, il faut continuer à travailler. Vraiment, on va aller encore à Abidjan, on va tout mettre en œuvre quand même pour gagner là-bas.
Noum Diané, l'entraîneur du Stade malien, son homologue Yao Amani, lui, était forcément satisfait de ce résultat, mais sans s'emballer non plus.
Parce qu'on a fait preuve de solidité défensive devant un très bon adversaire qui a quand même eu des occasions chaudes. On n'a pas perdu la tête, on a gardé notre sang-froid. L'objectif c'était de ne pas encaisser ici et puis d'essayer de marquer un but, si possible, c'est ce qu'on a réussi. Donc voilà, maintenant il ne faut pas pavoiser, il faut aller préparer la manche de tout sérieusement. C'est un ensemble, donc tactiquement on a très très bien joué, très bien défendu. Maintenant offensivement il fallait qu'on montre un meilleur visage, mais on a eu le mérite d'avoir mis un but. Et au moment où l'adversaire poussait, ils ont laissé des boulevards derrière, on en a profité pour mettre un but, c'est ce qu'on recherchait. On a pris une avance. Mais ce n'est qu'une avance, et après il faut le matérialiser au retour. Sans fanfaronnade, sans se croire déjà qualifié. Non, on va travailler dans un autre état d'esprit pour aller à la guerre, et puis à la guerre en guillemets, pour essayer de rentrer dans cette phase de poule là.
Yao Amani, l'entraîneur de l'ASEC Abidjan, au micro de Mamadou Kaloga. Dans le dernier match de la soirée, un peu avant 20h, temps universel, le coup de sifflet final a retenti à Casablanca sur la victoire du Wydad 2-0 sur les Sénégalais du Djaraf.
Et un peu plus tôt cet après-midi, beaucoup plus à l'est, Antoine, les Zambiens de Nkana ont dominé les Tanzaniens de Simba.
2-1, un but inscrit à l'extérieur qui pourrait compter au retour pour une équipe de Simba, de retour en Ligue des Champions après 5 ans d'absence et qui espère surtout depuis maintenant 2003, retrouver la phase de groupe. Match nul et vierge entre les Sud-Africains des Orlando Pirates et les Namibiens d'African Stars. Enfin, les Algériens de Saoura ont pris de l'avance en s'imposant 2-0 sur les Marocains de Tanger.
Demain, gros programme, Antoine, encore avec 7 rencontres. Hein.
Et le tout-puissant Mazembe en lice face à ses presque voisins, les Zambiens du Zesco United. Autre formation de RDC engagée, l'ASV Club de Kinshasa, finaliste malheureux de la dernière édition et qui affronte le champion du Lesotho, le FC Bantou, enfin Congo encore, mais de l'autre côté du fleuve cette fois. L'AS Oto reçoit les Zimbabwéens de Platinum. Les autres matchs, Gormaya Lobby Stars, Ismaili Coton Sport de Garoua, Al Ahly Benghazi Mamelodi Sundowns et enfin Club Africain Al Hilal Omdurman.
Tout ça, on en reparlera demain. Et quand on parle de la Ligue des Champions, Antoine, sa petite sœur n'est jamais très loin, car la Coupe de la Confédération dispute elle aussi ses 16e de finale aller. L'étoile du Sahel prend logiquement une belle option sur la qualification.
L'équipe de Sousse sans aucun aucun remords face au Stade d'Abidjan. Succès 3-0 qui ne laisse que peu de doutes quant au nom du qualifié pour la phase de groupe, même s'il reste le match retour aux Ivoiriens pour éventuellement remonter la pente. En tout cas, l'entraîneur de l'Étoile du Sahel, Patrick De Wilde, avait conscience que son équipe aurait pu être bien plus réaliste et gagner encore plus largement.
Oui, d'abord tu dois créer les occasions, à la fin tu dois les marquer, mais tout le monde sait qu'on manque un buteur, hein. Voilà. Mais quand même, c'est pour ça que je dis à tout le groupe, félicitations à mon équipe, parce qu'on a créé les occasions, voilà, ça c'est le plus important. Si tu regardes les occasions qu'on a manquées, c'est 10 contre 2, voilà, ok, c'est le football, il y a toujours l'équipe qui joue à l'autre côté aussi, ils vont créer aussi des chances. À la fin, c'est 3-0, on peut toujours te critiquer, on reste positif. On a été cette semaine dans une atmosphère très négative, mais à la fin, on a réagi aujourd'hui. Voilà, on m'a montré que nous sommes encore là. Je suis très content pour tout le monde, même ceux qui sont rentrés dans le jeu. On a montré qu'on a un groupe. Maintenant, de nouveau, on a montré qu'on a des possibilités. Voilà, on va regarder le futur maintenant.
Côté ivoirien, Lassina Traoré, l'entraîneur du Stade d'Abidjan, n'était pas abattu, mais réaliste. Son équipe, qui, rappelons-le, évolue en deuxième division ivoirienne, a selon lui fait trop de cadeaux à des Tunisiens bien plus expérimentés.
Oui, une sortie douloureuse dans la mesure où les enfants ont fait preuve d'immaturité, surtout sur les trois buts que nous prenons. Et la Coupe d'Afrique, ça brûle. Ça nous a donné une leçon aussi de football pour dire que lorsque nous jouons à l'extérieur, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà. Donc, on a payé cash de nos erreurs. Et je pense que c'est ce qui a favorisé l'équipe tunisienne, qui pour moi n'était pas une équipe aussi extraordinaire. Mais elle a joué juste, elle a essayé d'apporter le danger quand il le fallait et de calmer quand il le fallait.
Lassina Traoré, l'entraîneur du Stade d'Abidjan, au micro de Farouk Katou.
Autre formation à avoir quasiment assuré sa place en phase de groupe dès ce match aller, c'est l'équipe de Kampala City.
Les Ougandais tranquilles face aux Tanzaniens de Tibwa Sugar, victoire 3-0, tout aussi tranquille que la Renaissance Berkane, la formation marocaine qui a dominé les Libyens d'Alitiad sur ce même score, 3-0, ou encore les Kaiser Chiefs de Soweto, 3-0 aussi face aux Malgaches d'Eljeko, plus 3 buts d'écart également en faveur du CS Sfaxien, vainqueur de cette Coupe de la Confédération pour la dernière fois en 2013. Les Algériens ont disposé 4-1 des Zambiens de Green Buffaloes. Enfin, le Zamalek du Caire, je vous l'annonce, Eric, ah oui, sera au rendez-vous de la phase de groupe, à moins d'une disqualification ou d'un forfait. Hein. Mais sur le terrain, les Égyptiens ont assuré leur présence au prochain tour en atomisant l'AS Coton Tchad. 7-0. Il faudrait perdre 8-0 au retour pour être éliminé du côté du Zamalek. C'est peu probable.
Ouais, la remontada paraît effectivement très peu probable. Ce sera bien plus indécis au retour, en revanche, entre le FC San Pedro et le Daring Club Motema Pembe.
Les Ivoiriens, pour le premier 16e de finale de Coupe de la Confédération de leur histoire, sont allés chercher le nul un partout au Stade des Martyrs de Kinshasa. Un nul un peu chanceux, hein, les Congolais ayant raté un penalty et qui laisse de gros regrets à Junior Bometo, le défenseur du Motema Pembe.
Ouais, pour nous, vraiment, c'est une déception, mais on ne baisse pas encore les bras parce qu'il y a encore une match retour qui reste. Et vraiment, on va essayer un peu de travailler pour se rattraper au match retour.
Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bon, pour moi, ce que je veux dire, que non, ça a manqué juste le manque de détermination et le manque de volonté. Notre public était là, et malgré la déception de notre penalty, mais je vois que non, ils sont vraiment ensemble avec nous parce qu'au début, ça a été plus chaud, mais avant la fin du match, ça a été un trop peu mou. Mais espérons bien que non, ils seront toujours avec nous pour la qualification que nous allons chercher en Côte d'Ivoire.
En face, Tarek Jani, l'entraîneur de San Pedro, était fier d'avoir remporté son pari, ne pas perdre à Kinshasa.
Oui, on a réussi grâce à l'abnégation de mes joueurs, grâce au courage de mes joueurs. On était déterminés pour faire un bon résultat. Mes joueurs étaient appliqués dès la première minute jusqu'à la fin. On est venu là avec des certitudes tactiques et des compétences techniques, physiques et mentales. On a su gérer le match. On a gagné, c'est pas fini parce que le match retour sera plus difficile qu'ici. Comme nous sommes une jeune équipe, ça peut nous soulager, mais on doit garder les pieds sur terre parce que c'est pas fini.
Tarek Jani, l'entraîneur du FC San Pedro, à ne pas confondre avec le Seoué San Pedro. Tarek Jani au micro de Kaboulo Monacaboulo.
Là c'est toujours le même, et comme entre les Congolais et les Ivoiriens, une pléiade de matchs nuls dans ces 16e de finale aller. Hein.
Quelquefois un peu surprenant d'ailleurs, comme celui des expérimentés ghanéens de la Santé Kotoko, incapable de prendre le meilleur sur le terrain des Kenyans de Kariobangi Sharks, 0-0 score final, ou également les Algériens du Sende qui ont tenu en échec sur ce même score les Green Eagles de Choma en Zambie, voire encore les autres Algériens, ceux de l'USM Belabès, réduits à ce score de parité 0-0 par les Nigérians des Enugu Rangers. Alors, quand on ne gagne pas, ne pas perdre à l'extérieur, ça reste une bonne opération, surtout quand on marque, et ça a été le cas cet après-midi des Camerounais de New Star, un partout face aux Libyens de l'Al Ahly Tripoli. Quant à l'Hilal El Obeid, le club soudanais, il a fait match nul 0-0 face au Rwandais de Mukura Victory Sports.
Et puis pour finir sur cette Coupe de la Confédération, un petit mot des équipes qui se sont imposées mais devront quand même assurer le coup au match retour.
Et d'abord les surprenants Burkinabés de Salitas, à qui se succède 2-0 sur Al-Masri, va rappeler des souvenirs du tour préliminaire. C'est en effet sur ce score-là qu'il l'avait emporté au match aller face au club guinéen de Wakria, pour finalement se qualifier seulement grâce à un but inscrit en Guinée. Mais ce soir, Salitas est beaucoup plus serein, le succès ayant été obtenu en Égypte. C'est une surprise. Le matelas de but est donc bien confortable avant de recevoir Al-Masri au retour au Burkina. Et puis demain, fin de ces 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération. Ça se passe à Casablanca, où le Raja accueillera les Gabonais du Cercle Mberi Sportif.
Salitas, un club de Bobo Dioulasso, si je ne m'abuse. Allez, on arrête avec les Coupes d'Afrique des clubs, Antoine, mais on reste avec vous pour évoquer aux Émirats Arabes Unis, eh bien, le mondial des clubs et l'Espérance de Tunis qui prolonge la malédiction des clubs africains dans ce mondial.
Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, les espérantistes représentaient donc le continent africain. Une Afrique que la réussite fuit dans ce mondial des clubs. Lors des 4 dernières éditions, c'est simple, le représentant africain a systématiquement pris la porte dès son entrée en quart de finale, que ce soit l'entente Sétif, le tout-puissant Mazembe, les Mamelodi Sundowns, le Wydad Casablanca ou encore l'Espérance de Tunis cette année face à l'Aïn, le représentant asiatique et un peu le local de l'étape, hein, oui. Le club émirati. Et ben les 100 et or de l'Espérance se sont lourdement inclinés, 3-0. Du coup, c'est Al-Ain qui aura le privilège d'affronter au prochain tour River Plate, un club cher à notre réfé à nous.
Alejandro Valente, ce sera l'une des demi-finales. Je vous donnerai l'affiche de l'autre demi-finale en fin d'émission. Et puis, on reste sur le continent africain avec, après un peu plus d'un an, hein, loin des terrains, le retour sur le banc d'une sélection d'Alain Giresse. Il est désormais en charge des Aigles de Carthage, l'équipe nationale de Tunisie.
Il avait quitté le Mali en septembre 2017 après une Coupe d'Afrique au Gabon quittée dès le premier tour. Et puis ensuite, une défaite lourde, 6-0 en éliminatoire de Coupe du Monde face au Maroc. Bref, une fin en queue de poisson pour ce qui avait constitué le grand retour de Giresse dans un pays, le Mali, qu'il avait énormément apprécié. Le Mali, avec le Gabon et le Sénégal, l'une des trois nations que l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France aura dirigé, avant donc de rejoindre la Tunisie pour ce qui constitue sa première expérience sur un banc de sélection nord-africaine. La Tunisie, un choix presque logique pour le technicien français.
C'est une belle sélection, c'est des conditions de travail. En même temps, j'avoue que de rester sur le continent ne me dérange pas. J'ai beaucoup travaillé avec les sélections africaines. Maintenant, c'est avec une sélection d'Afrique du Nord, mais sur le continent que je connais bien, que j'ai beaucoup apprécié. Sur le plan professionnel, sur le plan humain, c'est toute chose que j'avais envie de faire. Avec la Tunisie, ça faisait toujours partie des perspectives. Et quand l'occasion a pu se présenter comme c'était le cas, voilà, l'accord a pu se conclure.
Comment s'est présentée cette occasion alors qu'il y avait plusieurs noms sur la table du président?
L'approche s'est faite par le fait que justement, ils sont arrivés jusqu'à moi. Quand vous dites qu'il y avait plusieurs noms, ça c'est leur choix qui est venu, qui s'est orienté vers moi. Mais après, ça a été un contact avec le président que je connaissais, que j'avais déjà rencontré. Et là, on a avancé. C'est une possibilité qu'il y a eu dans le temps, mais je n'étais pas libre, et ça c'est important. Hein. Et là, j'étais disponible, et ça s'est fait de toute façon tout à fait simplement, je dirais presque naturellement, nos échanges pour conclure.
Un contrat d'une année et demie, on parlait d'objectifs, et un contrat d'une année et demie, on ne peut pas attendre tous les objectifs.
Ah ben, il y a des objectifs effectivement qui passent par des compétitions, mais le président l'a bien rappelé. Un objectif, ça s'analyse en fonction de la façon dont ça se passe.
Alors, le premier objectif.
L'objectif, évidemment, c'est à travers la CAN, c'est de préparer la CAN et de faire une CAN réussie par rapport à ce que la Tunisie attend. Le prochain match, il est le 22 mars, donc dans cette période-là, tant mieux pour moi, hein, parce que ça pourrait être un peu précipité. L'objectif, c'est de continuer à améliorer cette équipe. Cette équipe-là a été bien menée, bien construite par les prédécesseurs. Eh bien, c'est justement de continuer à la faire avancer, la faire progresser en termes de qualité de jeu, puis bien sûr derrière en termes de performance.
Alain Giresse, le nouveau sélectionneur de la Tunisie, au micro de Farouk Kattou. Gigi, c'est son surnom, de retour en Afrique du Nord, lui qui avait pris au tout début des années 2000 les commandes du phare de Rabat, le club de marocain. Quant à son prochain match avec les Aigles de Carthage, il en parle, c'est le 22 mars, ce sera sans enjeu face à l'Iswatini, l'ancien Swaziland, pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Tunisiens, qui on le rappelle, sont déjà qualifiés dans leur groupe en compagnie de l'Égypte.
Ça peut aider.
Allez, on va parler cyclisme, Antoine, au Niger. Dernier tour de roue cet après-midi pour les 57 coureurs du Tour National.
Une deuxième édition conclue sur une cinquième étape aujourd'hui. 60 km entre Koundoumawa et Zinder. Elle a été remportée par Issoufou Sani du club Wasika. Le vainqueur du général, lui, se nomme Mustapha Oumarou. Il est pensionnaire de l'AS Police Club de Niamey. Il succède au palmarès à Ali Idrissa de l'AS Fan, vainqueur de la première édition. C'était l'an passé. Ali Idrissa qui, cette année, doit se contenter seulement de la deuxième place au général. À Zinder, le bilan de ce Tour du Niger avec Ousmane Keïta.
Il a été tout simplement le meilleur rouleur et le plus endurant. Mustapha Oumarou, de l'AS Police, âgé de 20 ans, a remporté avec autorité ce samedi le deuxième tour cycliste de la République à l'issue de la cinquième et dernière étape Koundoumawa Zinder, longue de 60 km. Certes, il n'a gagné aucune étape, mais son meilleur temps lui a permis de s'imposer sur ce tour.
Les tours-là, c'est très dur, hein, parce qu'il y a des vents. Mais ici, il y a des entraînements qui vont faire tout. Plus de 2 mois, je suis en train de préparer cette tour. C'est à cause de ça que j'ai gagné.
Pour le directeur de course, malgré son caractère local, cette deuxième édition du Tour de la République a été une réussite. Et le niveau s'est amélioré, même si certains clubs de province du Niger ont brillé par leur médiocrité, c'est-à-dire manque de conditions physiques. Guirok Omar.
La course en moyenne, c'est entre 35-40 km à l'heure. Vraiment, c'est quand même un peu bon par rapport à l'année passée. On peut dire que même dans le tour de la sous-région, en fait, la moyenne, c'est 40-41. C'est l'intérêt qui vraiment ne travaille pas, parce que le travail, c'est ça qui paye. On ne peut pas comprendre qu'on dise vous avez une équipe ou des coureurs et vous attendez 2 ou 3 jours du démarrage de la compétition pour commencer à vous entraîner. Quand on dit que j'ai créé un club, il faut mettre les moyens pour au moins travailler, parce que ça ne sert à rien de venir faire les figurants.
L'une des particularités de ce tour, c'est surtout la participation de 5 jeunes cyclistes sur les 55 et dont le moins âgé n'a que 14 ans. Son nom, Issaka Ibrahim du club Wasika Express de Niamey. Et à chacune des étapes, il figurait parmi les 8 premiers à l'arrivée. Une satisfaction pour le président de la Fédération Nigérienne de Cyclisme qui voit en cela une relève assurée. Ahmed Saleh Hamidou Tchana.
Ce qui nous a marqué le plus, c'est que nous avons remarqué que la jeunesse des coureurs aujourd'hui, nous avons des jeunes de 14-15 ans qui viennent de l'intérieur, qui viennent de la ville de Niamey, qui sont là, qui compétissent. Donc aujourd'hui, on peut dire que le cyclisme est une fédération avec laquelle il faudra compter.
Prochain rendez-vous en décembre 2019 pour la 3e édition. Et le circuit est déjà dévoilé. Le top départ sera donné à Zinder avec une arrivée à Tillabéri, à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali, soit 1070 km. Ousmane Keïta, Zinder, RFI.
Antoine Grenier nous a quittés, il a beaucoup travaillé lors de cette émission. On va maintenant s'intéresser au rugby français qui est sous le choc depuis la mort tragique de Nicolas Chauvin mercredi. Le jeune joueur du Stade français, il avait 18 ans, est décédé à la suite d'un plaquage reçu en plein match, un plaquage très violent opéré par deux joueurs lancés à pleine vitesse alors qu'il était lui-même arrêté. Et pourtant, il était dans les règles du jeu, ce plaquage. C'est le troisième jeune rugbyman mort dans ces circonstances en France depuis le mois de mai. Du jamais vu, c'est trop, a réagi jeudi soir à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a demandé à la Fédération française de se poser des questions. Est-ce que c'est le rugby qui les a tués? En tout cas, la dangerosité accrue de ce sport et son évolution. Comment cela est-il possible? Quelles sont les solutions? Pour en parler, pour essayer de comprendre comment cela a pu arriver, nous sommes en ligne avec le professeur Jean Chazal, neurochirurgien réputé à Clermont-Ferrand et véritable spécialiste en traumatologie du sport, amoureux du rugby depuis sa plus tendre enfance. Il a notamment opéré les internationaux Clermontois, Wesley, Fofana et Damien Chouli, ainsi que le skieur Luc Alphand après un accident de moto. Et il y a un an, il avait tiré la sonnette d'alarme, ce qui lui avait valu d'être écarté du comité médical de la Fédération française de rugby. Jean Chazal, bonsoir.
Bonsoir.
Adrien Descrules, victime d'un traumatisme crânien en mai, Louis Favrovski, 21 ans, dont le cœur a arrêté de battre après un choc thoracique en août, et Nicolas Chauvin, qui vient de succomber à une fracture d'une cervicale à 18 ans. Tous les trois étaient rugbymen, de jeunes rugbymen. Les deux derniers faisaient partie de clubs professionnels, Aurillac et le Stade français. Et tous trois sont morts à la suite ou des suites d'un plaquage lors d'un match de rugby en France. Jean Chazal, est-ce qu'on peut dire que le rugby les a tués?
Oui. Oui, hélas. Il y a un peu plus d'un an, on m'a donné l'étiquette de lanceur d'alerte. Et j'avais dit à l'époque, un jour, il y aura un mort sur le terrain. Et en 7 mois, il y en a eu 3. Pour les 2 premiers, on a essayé d'atténuer un petit peu la douleur dans ce sport. On a mis un petit peu la poussière sous le tapis d'une certaine façon. On a dit, c'est peut-être accidentel, rien n'est prouvé. Mais aujourd'hui, à la réflexion, et quand on met les dossiers sur la table, sans langue de bois, eh bien, on peut dire effectivement. Donc le rugby les a tués.
Et tous ont été touchés ou après un plaquage. C'est un plaquage parfois haut, mais pas toujours, qui a été la cause directe ou indirecte de ces décès.
Alors il y a le plaquage effectivement haut, on en parle beaucoup, mais je dirais qu'il faut parler du plaquage en général et des gabarits. Aujourd'hui, le rugby a changé d'esprit. Le rugby, initialement, c'était un sport d'évitement. Pour être imagé, si vous voulez, le joueur qui était porteur du ballon devait chercher la porte ouverte dans la défense adverse et le plus vite possible passer dans cette porte ouverte. Aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation des gabarits et de la puissance des muscles, ils ne se posent plus de questions, ils ne cherchent pas la porte ouverte, ils enfoncent la cloison. Bien. Alors, les muscles sont devenus très puissants, les joueurs ont pris 10 à 15 kilos ces 20 dernières années, et cette puissance, eh bien, le cerveau, par exemple, ou la boîte crânienne, n'est pas faite pour le supporter. Le cœur non plus, et les autres viscères non plus. En tout cas, les plus fragiles. Pour le jeune Descrules, il a fait une hémorragie intracrânienne, parce qu'il y a eu un choc direct, il y a eu une fracture. Cette fracture a déchiré un vaisseau à la surface du cerveau, et il s'est produit un hématome. Pour le joueur d'Aurillac, il y a eu un choc direct en revers du cœur. Le cœur n'a pas supporté cette onde de choc et s'est mis en fibrillation ventriculaire et s'est finalement arrêté. Et puis pour le jeune Chauvin, eh bien, il y a eu une onde de choc qui est passée par cette zone charnière, qui est la deuxième vertèbre cervicale, et qui a cédé. Alors c'est des chocs qu'on voyait autrefois en traumatologie de la route, quand on roulait très vite, en moto ou en voiture, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de protection. Mais il y a des années qu'on ne voit plus ce type d'accident. Et c'est terrible de les voir dans un sport qui est normalement un sport d'évitement et non pas un sport de collision ou d'affrontement, de combat direct. On l'a oublié, ça, un petit peu. Et on l'a oublié parce que les gabarits ont augmenté, le professionnalisme, probablement les suppléments nutritionnels. C'est peut-être pas le débat, mais il y a une question à se poser autour de tout ça. Mmh. Cette prise de masse musculaire très importante, et qui fait que finalement on a mis un moteur Formule 1 sur un châssis de voiture de série et que ce châssis ne le supporte plus. Le châssis du joueur lui-même, qui se blesse, beaucoup plus souvent qu'auparavant, et qui blesse son adversaire. Je pense que maintenant, c'est un problème de formation, d'éducation. Il faut tout mettre sur la table, et il faut pas dire « mais non, mais c'est pas grave, c'est déjà arrivé ». Je crois que le signal d'alerte est très fort.
Alors justement, à ce propos, je vous cite les propos de Brett Gosper, le directeur général de World Rugby, autrement dit, la Fédération Internationale, après la mort de Nicolas Chauvin. Pour lui, même si c'est un moment très dur pour le rugby, même si l'intégrité physique des joueurs est leur priorité numéro un, il dit « le rugby n'a jamais été aussi sécure, il était plus dangereux avant que maintenant, les retombées sont bien au-delà des risques. Ça vous choque ?
Oui, ça me choque, mais finalement, ça ne m'étonne pas, parce que il parle d'un temps ancien, il y a plus de 20 ans, on va dire, il y avait des chocs, il y avait des blessures, il y a eu des morts, c'est vrai, mais enfin, pas tant que ça, finalement. Mais les gabarits étaient beaucoup moins importants et les chocs étaient beaucoup moins violents. Tout ça, c'est relatif. Il faut rapporter la violence aux gabarits de l'époque. Je vais prendre l'exemple d'un demi d'ouverture qui est aujourd'hui particulièrement exposé. On le sait, c'est le poste le plus exposé. Il recevait sur le dos des joueurs qui avaient le même poids que lui, c'est-à-dire 80-85 kilos, y compris les avant, en tout cas les troisièmes lignes. Bon, aujourd'hui, un demi d'ouverture, il pèse 80-90 kilos et il reçoit sur le dos, au moment du plaquage, des joueurs qui pèsent 100, 115, 120 kilos et qui développent une énergie considérable. Et c'est ça le danger. Et c'est là que le directeur général de World Rugby a tort. Et puis, il ne peut pas contester non plus que c'est un sport qui est devenu un sport d'affrontement. Alors, les All Blacks, par exemple, sont en train de rectifier le tir. Leurs trois quarts ne pèsent plus que 90 à 95 kilos. Ils courent très vite. Ils privilégient la dextérité et les passes. Alors qu'en France, on en est encore à l'affrontement, et dans certains pays aussi. Et je crois qu'il faut revenir aux bases. Sinon, il faut l'appeler autrement, le rugby. Moi, je lui donnerais raison si on appelle ce rugby, non pas le rugby, mais le rugby américain, par exemple. Pourquoi pas ?
Oui, en référence au football américain, la ministre des Sports, Jean Chazal, Roxana Maracineanu, a réagi avec émotion à ce sujet en évoquant le fait qu'un troisième jeune homme qui décède sur un terrain de rugby, c'était trop. Il faut vraiment que l'on fasse quelque chose et que la fédération se pose vraiment des questions. Que faut-il faire alors ?
Je crois que vous savez, moi je suis neurochirurgien, j'ai passé ma vie à sauver des vies, à préserver la vie, on va dire, surtout, et puis à en sauver un certain nombre aussi. Et bien que vieillissant, je reste toujours aussi sensible à ces drames, c'est insupportable. Je ne crois pas qu'on puisse aller mourir sur un terrain de jeu, c'est pas possible. On meurt pas au foot, on ne meurt pas au handball, on ne meurt pas au basket, on meurt au rugby, c'est insupportable. Alors, pratiquement, globalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réunir tout le monde, en tout cas à l'échelle de la France, tout mettre sur la table, hein, et pas se comporter en latin. Les latins, ils ont toujours tendance à mettre un peu la poussière sous le tapis en disant « mais non, c'est pas si grave, ça va affoler les populations ». Non, il faut être clair, sans langue de bois, il faut expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé, y compris aux parents qui mettent leurs enfants dans les écoles de rugby. Et à partir de là, les gens auront confiance. Pour le moment, les gens n'ont pas confiance. Parce qu'ils nous disent, on a pris des mesures, on a interdit le plaquage jusqu'à l'âge de 12 ans, on a instauré la pratique du rugby touché, et puis il y a 40 mesures qui ont été publiées. Mais il y a quand même des morts, il y a quand même des blessés tous les week-ends. Donc ça continue. La violence continue. Donc il faut tout mettre sur la table. Mais pas seulement les dirigeants, il faut les présidents, il faut les entraîneurs, il faut les préparateurs physiques, il faut les joueurs. Il faut que les joueurs s'expriment, il faut le ministère de la Santé, le ministère des Sports, il faut des universitaires, des médecins, il faut mettre tout sur la table, et là il y aura une prise de conscience. Et à partir du moment où il y a une prise de conscience, vous verrez que ça ira mieux. C'est comme les accidents de la route. Quand on a publié les courbes en France de 17 000 morts par an, dans les années 70, on s'est dit « ça ne peut plus durer ». Donc les gens ont accepté les radars, ont accepté la ceinture de sécurité, etc., etc. Les limitations de vitesse. Et là, c'est la même chose.
Merci Jean Chazal, on espère que vous serez entendu, vous nous répondiez depuis Clermont-Ferrand. On arrive à la fin de ce Mondial Sport, on va juste pouvoir vous donner les principaux résultats enregistrés dans les championnats européens de football ce soir. La victoire en Angleterre de Manchester City, 3 buts à 1 face à Everton. En attendant les matchs de demain, Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah se partagent toujours la tête du classement des buteurs avec 10 réalisations chacun. La première place Liverpool avec Salah demain pour pourrait la reprendre en cas de victoire face à Manchester United. En Espagne, l'Atlético Madrid est revenu à hauteur du FC Barcelone en s'imposant à Valladolid 3-2 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Et puis le Real Madrid, lui, s'est contenté du minimum 1-0 face au Rayo Vallecano grâce à Benzema pour s'envoler tranquille du côté des Émirats Arabes Unis et le Mondial des Clubs où il va disputer la demi-finale face au Japonais de Kashima Antlers mercredi. Bonne soirée à tous. Merci Alain Avril.